17h05, bon, bah, il est temps de changer de station. Salut.
Est-ce que Daniel Mermet existe? réponse, on ne sait pas.
Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 mars 2003, et je pense à vous, enfants, femmes et hommes d'Irak et d'ailleurs. Je pense à vous et je ne dors pas. Ce qui se passe a pris des proportions délirantes, que rien n'arrête. Les manifestations du monde entier n'iront rien changer, sauf que nous avons dit non. Je pense à vous et je demande, quand pourrons-nous nous endormir avec une âme d'enfant?
Oui, bonjour. Je regrette beaucoup que cette émission ait lieu là-bas si j'y suis. C'est vraiment dégradant pour une radio comme France Inter. Et c'est, de 5 à 6, moi je l'éteins. Je ne veux pas l'écouter.
Et pendant ce temps-là, tout doucement, l'État se retire de France Télécom. Ciao, ciao.
Salut Daniel. Quand on ferme une radio ou un journal à travers le monde, ça donne ça.
Merci voilà. À Arte hier soir d'avoir diffusé ce film. Salut, sur les deux.
Aujourd'hui, vous avez compris, toute une année dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, vos messages pour 2003, les meilleurs messages que nous avons choisis, cueillis avec Christophe Humbert dans tout au cours de l'année dernière. Donc c'est aujourd'hui et demain pour commencer cette année. On va regarder un peu dans le rétroviseur. Mais j'ai couru dans l'escalier, j'étais en retard. Mais d'abord, j'ai une chose extrêmement importante à vous dire et je vais demander à mes camarades réalisateurs et techniciens de couper ce fond sonore, ce décor sonore, si vous voulez bien. Voilà, j'ai besoin de silence pour dire une chose extraordinairement importante pour commencer cette nouvelle saison. Voilà. Jean-Luc Hesse est honnête. Jean-Luc Hesse est bon. Jean-Luc Hesse est juste. Jean-Luc Hesse est un chef avisé, sobre et pondéré. Jean-Luc Hesse est un grand journaliste. Il a la Légion d'honneur, il parle américain et il monte à cheval. Alors vous êtes un peu... Voilà le cheval, mais on va le retrouver. Vous êtes un peu surpris par mes propos. C'est que je veux absolument commencer cette saison en répondant et en rassurant Philippe Val. Philippe Val, vous le connaissez, et dans un éditorial de son hebdomadaire Charlie Hebdo, daté du 24 décembre, Philippe Val nous apprend que le directeur de France Inter, Jean-Luc Hesse, fait l'objet d'un ignoble complot. Un petit journal satirique, marginal, bimestriel, qui s'intitule PLPL, a décerné à notre directeur de France Inter, Jean-Luc Hesse, la laisse d'or, le prix récompensant le journaliste le plus servile. Fin de citation. Et évidemment, Philippe Val est indigné et dans cet éditorial, qu'il a lu quelques jours plus tard à cette même antenne de France Inter, le 29 décembre, il me somme, moi-même, Daniel Mermet, ainsi que les collaborateurs de France Inter, les subordonnés de Jean-Luc Hesse, de dire que c'est pas vrai. De le dire haut et fort, et de répéter avec lui, je cite, « Jean-Luc Hesse, dont l'honnêteté jamais n'a été prise en défaut, et sous la direction duquel je m'honore de faire mon travail librement. » Fin de citation. Et il est en effet tout à fait infamant de comparer Jean-Luc Hesse à un caniche. Philippe Val voit même là l'esprit, je cite, « des feuilles d'extrême droite des années 30 », qui cherchait à avilir et à calomnier. Philippe Val a bien raison. Mais s'il est logique avec lui-même, il risque d'avoir du travail jusque dans son propre journal. Cher Philippe, dans votre combat contre cette presse nauséabonde, il vous faudra porter le fer des ciseaux jusque dans vos colonnes et dans vos pages pour en finir avec ceux de vos subordonnés qui, semaine après semaine, constituent de l'opinion générale, selon l'avis général, une véritable entrave à votre accession à la notabilité médiatique et à la respectabilité intellectuelle que vous méritez. Ainsi, dans ce même numéro, celui du 24 décembre 2003, je vois un dessin qui représente Tariq Ramadan, nu, son sexe en érection, coiffé d'un voile islamique. Alors, on peut très bien voir là une provocation islamophobe dans la veine du racisme contre les bicots, entre guillemets, bien évidemment, des années 30. Et si on continue de regarder votre hebdomadaire, ou si on pense à ce qu'il fut, on se dit que du cancer du président Pompidou jusqu'au goitre du Premier ministre Édouard Balladur, eh bien c'est presque toute l'histoire de votre journal qu'il va falloir censurer. Alors on se pose la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous n'aurions pas chaque semaine uniquement l'éditorial de Philippe Valle, sur 16 pages par exemple, ou bien alors l'inverse, pourquoi pas laissez ce torchon à vos subordonnés, cher Philippe, et rejoindre les colonnes qui, ailleurs, vous attendent et vous méritent. Mais je continue à parcourir votre journal et je vois un peu plus loin, sur la même page d'ailleurs, une phrase qui attire mon regard. La voici. Que sont devenus les poils de la barbe de Saddam Hussein ? Ils ont été vendus à Lourdes comme les poils de cul du Christ. Fin de citation. Et là, cher Philippe, mon sang ne fait qu'un tour. Cette fois, c'est moi qui suis blessé. Ma mère est âgée de 87 ans. C'est une pieuse catholique qui est revenue éblouie d'un pèlerinage à Lourdes. Alors, pourquoi ma modeste maman et sa modeste piété devraient-elles subir un tel outrage ? J'imagine ma pauvre mère qui, venant chez moi, tombe sur cette phrase. Imaginez, les poils du cul du Christ. Eh bien, elle meurt à l'instant. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez ? La mort de ma propre mère, car s'il est en effet infâme, évidemment, de comparer Jean-Luc Hesse à un caniche, tuer ma propre mère avec les poils du cul de Jésus l'est encore davantage. Alors, Philippe, c'est dire tout le travail qui vous attend et nous vous en supplions, délivrez-nous du mal. Quoi qu'il en soit, je le dis et je le répète, Jean-Luc S. est honnête, Jean-Luc S. est bon, Jean-Luc S. est juste, Jean-Luc S. est un chef avisé, sobre et pondéré, Jean-Luc S. est un grand journaliste, il a la Légion d'honneur et il parle l'américain et il monte à cheval.
Salut Mermet. Quand est-ce que tu vas arrêter avec ta moto américaine vulgaire et prétentieuse ? Remets-nous donc le vieux vélo tout rouillé, ça correspond plus au sujet que tu traites et puis à la tristesse de la marche du monde.
Alors grâce à Guy Carlier, j'ai la réponse à la question de l'auditeur qui voulait savoir de quelle marque la moto que l'on entend sur votre générique. C'est une mobilette de marque Flandria, appartenant au Mola Omar, dit le moteur Omar, fuyant les frappes de diabolique bouche. Bonsoir.
J'appelle pour une observation. Depuis quelques jours, je me fais la réflexion, j'espère que le bruit de motocyclette qu'on entend en début de d'émission n'est pas celui d'une Harley Davidson, symbole de l'Amérique puissante qui écrase tout sur son passage. Alors, à vérifier. Merci beaucoup. Au revoir.
Je tiens à remercier ici, par ce message, Daniel Mermet et son équipe de nous avoir changé la Harley Davidson par le vélo du facteur de Jacques Tati. Merci beaucoup.
Hélicoptère.
Oh, allez, hop, allez les gars, au suivant. Salut, c'est Daniel Mermet avec Christophe Imbert. Là-bas, si j'y suis, toute une année de répondeurs.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour Daniel, je ne connais pas mes coordonnées. C'était juste pour te souhaiter une soirée formidable pour ce début d'année 2003. Nous sommes actuellement en Saint-Germain, à Nouvelle-Abbé, tout nu dans Poitiers. C'est en Poitiers, c'est la grande forme. Voilà, bonne année, c'est tout. J'adore ton émission et repose-toi bien.
Et ça y est, c'est 2003. On a changé de bocal, mais on garde les mêmes cornichons. Stéphane, de Grenoble.
Et voilà, sur le répondeur dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, 2003 a commencé comme ça, et avec Christophe Imbert, on a réécouté tous les messages que nous avons diffusés au cours de l'année, c'est un sacré boulot, et on a choisi les plus drôles, les plus pertinents, les plus touchants, les plus précis, les plus jubilants, les plus pertinents, au cours de cette année tumultueuse, cette année chaotique, cette année difficile, cette année heureuse aussi, enfin une année comme une autre dans la vie de l'humanité tout entière, de notre petit hexagone et encore plus petit sur notre répondeur. Alors voilà, aujourd'hui et demain aussi, vos messages, ce que vous avez laissé, que vous laissez chaque jour, depuis des années. Il y a pas mal de contrefaçons un peu partout. Mais enfin bon, voilà, c'est le répondeur de la base, j'y suis. Et cette année-là a commencé ainsi.
Ouais, salut, juste une question qui me traverse l'esprit à peu près 400 fois par jour. Pourquoi j'ai voté Chirac? Ah oui. Parce qu'il y avait Le Pen. Mais bon, pourquoi j'ai voté Chirac? Enfin bon, vivement 2007, qu'on ait le choix entre Sarkozy et Marine Le Pen. Salut.
Bonsoir, je suis José, 72 ans, Paris, 75. Exercice de lèche. Exercice approximatif de lèche. Où qu'il est, mon Kiki, mon Sarko, mon Sarkozy. Voilà bien 3 jours que je n'ai pas eu ces jolies fossettes à la télé. Où qu'il est, mon Kiki? Sans lui, je suis tellement en état d'insécurité. J'ai peur à tous les coins de rue. On me le ramène vite, mon Kiki. Mamie Jo.
Jacques. Attention, Jacques. Si Georges est le maître et Tony son caniche, que seras-tu en les suivant? Une crotte, Jacques. Un étron canin. Réfléchis bien, Jacques. Il vaut mieux suivre la colombe. La fiente de colombe, c'est moins salissant. Et ça porte bonheur. Alors que la crotte de caniche, ça ne porte bonheur que si l'on marche dessus.
Concours de lèche, on avait lancé un concours de lèche et qui a eu un certain succès. Et puis, on le sent, dès le début janvier, la guerre approche et les auditeurs de la base, si j'y suis, donnent de judicieux conseils au chef de l'État.
Simone, Saint-Priest, 66 ans. Ô France, terre des hommes de liberté, quelle chance tu as, après avoir connu la royauté, l'empire, le premier et le deuxième, 5 républiques, tu vas connaître, enfin tu commences déjà à connaître la chiracocratie, où tous les grands corps d'État, la presse et le MEDEF sont unis pour la volonté d'un seul homme et même de sa femme. C'est évidemment pour le lèche. Merci et bravo à vous tous.
Voilà, si les pauvres meurent de froid, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce qu'ils sont pauvres.
Mathieu Angers. Je suis d'origine protestante. La Bible familiale. Daniel était le livre sacré. Je le conservais sans le lire. Un jour, la retraite venue, j'ai mis le nez dans l'Ancien Testament.
Quoi?
C'était pour ce tissu d'ânerie que mes aïeux et les camisards avaient bravé les galères, subi les dragonnades de ce salaud de Louis XIV. Alors désemparé, j'ouvrais le Coran. Illisible! Une litanie d'affirmations sans aucune authenticité. Une lecture insupportable. Mais mes frères humains de toutes couleurs, aucun livre n'est sacré. Lisez Montaigne, Diderot, Voltaire. Aimez la vie, la vérité. Fuyez toutes ces croyances qui ne causent que persécution, massacre et haine. Vivez libres en pensée.
J'aimerais beaucoup savoir pourquoi personne ne parle d'homme voilé. Et ça me pose beaucoup de questions. Voilà, merci.
En ce moment, Islamalgame, c'est vraiment superbe. Et je me pose la question suivante et je lance éventuellement l'invitation suivante à Daniel Mermet et à son équipe. Bon, on parle effectivement toujours de l'islam intégriste, l'islam fondamentaliste, etc., etc. On, c'est-à-dire essentiellement les médias, la télé, un peu moins la radio de France Inter, mais beaucoup la télé. Mais jamais on ne parle de l'intégrisme ou du fondamentalisme que je vais appeler protestant, c'est-à-dire chrétien dans sa déclinaison protestante. Or, cet intégrisme-là et ce fondamentalisme-là, c'est celui de Bush, c'est celui de Rumsfeld, le ministre de la future guerre et de toutes les autres guerres, c'est celui de Ashcroft, qui est la tournée générale, je crois, aux États-Unis. Et je trouve que ces intégrismes-là, sans parler des autres, hein, il y avait aussi Reagan qui était tous ce qu'ils appellent des born again, ce qui est une représentation très très forte, et plus qu'une représentation, du fondamentalisme tel que les chrétiens sont capables de le vivre, c'est-à-dire qu'on prend les textes exactement pour ce qu'ils disent, on ne se sert pas de son esprit critique, on ne fait pas appel à des lectures symboliques, non, on prend les choses telles qu'elles sont dites, puisqu'elles sont dites, elles sont vraies. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que ce fondamentalisme-là, d'aventure, il n'est pas au moins aussi dangereux que l'autre, celui dont on incrimine l'islam et les musulmans? Je dis au moins parce que, d'une façon générale, les musulmans ont quand même moins de pouvoir destructeur, si on accepte le terrorisme, qui de toute façon est inacceptable. Ce pouvoir destructeur des fondamentalistes américains, je me demande si c'est pas aussi dangereux, et j'aimerais bien entendre des tas de choses, si on peut dire.
This is a special expanded edition of the CBS Evening News.
Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.
Reporting from CBS News headquarters in New York.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à tous, Gilles. Je suis de passage à Millau. Je pense, parce que je suis sur la route très souvent, commercial, j'écoute souvent ton émission donc, et il est 19h16, et j'ai beaucoup de peine pour José Bové, parce que le McDo de Millau, il est plein, il y a la queue au drive-in, et je me demande si tout le monde comprend le combat. Au revoir.
Salut Daniel, est-ce que tu pourrais faire un reportage sur Luc Ferry à Porto Alegre? C'est sadique, hein, mais vu que le gars il a écrit un bouquin où il vomit sur la pensée 68 et qu'il doit choper un bouton dès qu'il voit un trotskiste à moins de 10 mètres, là, je me dis qu'il doit avoir un psoriasis alors qu'il est. Donc, je pense que si Chirac avait voulu lui faire un coup un peu bas, il pouvait pas mieux faire. Donc là, histoire qu'on se détende un peu, s'il te plaît, suis-le à la trace, ça nous fera plaisir. Ciao.
Salut Daniel, oui, c'est Cyril de Marseille. Juste un petit message pour saluer la mémoire de Stanislas Tomkiewicz, qui vient juste de disparaître. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais ce grand pédopsychiatre s'est occupé après la guerre et son internement dans les camps des enfants considérés à l'époque comme des rebuts de la société. c'est-à-dire des enfants polyhandicapés atteints de débilité profonde. Voilà, il s'est occupé également comme psychologue pendant plus de 20 ans d'adolescents en difficulté à Vitry, avec Joseph Finder, appliquant à l'époque, avec l'équipe éducative, des méthodes aux antipodes de ce que nous propose le ministre de l'Intérieur. Voilà. J'aimerais que tu lui rendes hommage à ce grand monsieur. Voilà, plein d'humour et tout. Bon, au revoir Daniel, merci.
De moyens plus violents de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez. Rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.
Salut Daniel, c'est Yann, souriant, en colère du bar. Voilà, je t'appelle de la manifestation de Nice où il y a du monde aujourd'hui pour dire non aux réformes du ministère contre l'éducation. En effet, ils veulent nous faire passer à 41 heures hebdo. Comment peut-on étudier avec 41 heures par semaine? Voilà, essaye de nous rappeler. Merci.
Première manif contre... pour l'éducation nationale, comme on voudra, c'était fin janvier 2003, deux pertes, Henri Krasuki, dont on vient d'entendre la voix, et puis Stanislas Tomkevitch, effectivement, un grand personnage que j'ai pas eu la chance de connaître, mais il faudrait qu'on lui rende un hommage circonstancié, un beau jour. En janvier, c'est Islam Al-Gam, dans la basse où j'y suis, Thierry Sharp arpente les banlieues dangereuses, pleines de barbus islamistes qui violent ou qui voilent les femmes, c'est l'un ou l'autre. Et ce sera un des grands sujets de l'année. Un autre grand sujet dans le mois qui vient, le mois de février, le 15 février à Rome, à Madrid, à Londres, à Paris, à New York, au total 10 millions de personnes se mobilisent à travers la planète contre la guerre de Bush et de Blair contre l'Irak, février 2003, sur le répondeur de là-bas.
Année 2044. En rangeant mon grenier, je suis tombé sur une pile de vieux journaux jaunis. La guerre de 2003 aura-t-elle lieu? Raffarin, Ben Laden, oh là là. Chirac, Jospin II, le retour. George W. Bush. Ah, c'est vieux, tous ces machins-là. Et la grande épidémie de 2006. Et l'arrivée des extraterrestres en 2010. Lorsqu'ils ont défilé avec leurs soucoupes sur les Champs-Élysées, oh putain. Oh les gueules qu'ils avaient, les photos pas possibles, c'est dingue. Et les voitures, ah, je m'en souviens des voitures, le bordel que c'était, oh là là. Tous ces vieux trucs, qu'est-ce qu'on peut garder comme conneries?
Salut Daniel, ici c'est Olivier, je suis en direct de la manifestation contre la guerre à la Bastille Murat. Alors on est une bonne vingtaine en comptant les enfants, mais c'est toujours pareil, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et même si on n'est pas nombreux, on se fait quand même entendre autant qu'on peut. Voilà, et ben salut à tous, et puis faut pas qu'on lâche. Au revoir.
Bonsoir. Paix. Période entre deux guerres, généralement composée d'un après-guerre et d'un avant-guerre. Ça vous va?
Eh bien bonjour, c'est la compagnie Jolimôme. Nous sommes en danger, si tu veux bien laisser passer ce message en direction des auditeurs. Alors ce qu'on veut dire, c'est que nous, les petites compagnies qui travaillons pour survivre, les comédiens, les techniciens, les groupes de musique, les danseurs, les réalisateurs de cinéma et de l'audiovisuel, nous sommes menacés de disparition. En effet, depuis que le MEDEF a pris le pouvoir, tous les travailleurs sont confrontés à une véritable guerre sociale. Il en est de même pour nous. Diminution de 11% du budget de la culture. Tentative de démantèlement de notre assurance chômage. C'est pourquoi, le mardi 25 février, tous les professionnels du spectacle et de l'audiovisuel se mettront en grève. Et que nous appelons le public non seulement à ne pas aller au spectacle ni au cinéma, mais à manifester avec nous à 18h, place de la Bastille. Pour la sauvegarde de nos métiers et contre la casse de la culture. Merci.
Dès le 20 février, dans le répondeur de la basse où j'y suis, avec la compagnie Joli Môme, les intermittents, qu'on n'appelle pas encore les interlutants, occupent le répondeur. On est en février.
Les artistes, les techniciens, les artistes, les techniciens, les artistes, les techniciens, les artistes, le Bataclan, le Bataclan, le Bataclan,
lors d'une conversation anodine entre amis, j'apprends que dans un lycée du 15e arrondissement, des profs juifs trouvent depuis peu des propos antisémites écrits dans leur salle de classe. Alors je me demande quand est-ce que le prof homosexuel va trouver des inscriptions homophobes dans sa salle, le prof communiste, des inscriptions anticommunistes, et la liste pourrait être longue. En fait, je suis très ennuyée que les professeurs de ce lycée ne se soient pas mis en grève pour protester. Et je ne peux m'empêcher de penser que ceux qui agissent ainsi... Et ceux qui laissent agir, d'ailleurs, sont en train, sans s'en rendre compte peut-être, de donner de grands coups de boutoir dans eux-mêmes d'abord, mais aussi dans l'un des grands principes de notre école ouverte à tous et gratuite. Enfin, ils portent atteinte à la démocratie. Je suis triste et inquiète. Il est temps de nous réveiller. Le rêve pourrait devenir cauchemar au XXIe siècle, comme pendant le XXe. L'histoire a-t-elle envie de se répéter ?
Quand ce n'est pas Sarkozy qui vient faire de la provocation dans nos banlieues, eh bien c'est Monsieur Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, qui montre du doigt nos enfants. Il me semble qu'une campagne contre le racisme et l'antisémitisme est incomplète si elle ne concerne qu'une des formes du racisme. Parce qu'il me semble que la République s'est construite sur les valeurs de l'égalité, que je trouve choquant que le ministre de l'Éducation nationale que vous êtes, Monsieur le ministre, dénonce un antisémitisme grandissant chez nos enfants, chez les jeunes de banlieue. Cela est une source de communautarisme si au départ elle est basée par un traitement discriminatoire. Et c'est ce que vous faites, Monsieur le ministre. À quand une campagne contre le racisme à l'embauche des jeunes issus de l'immigration ? Il me semble qu'une campagne contre le racisme est incomplète si elle ne concerne qu'une des formes du racisme en France. Le racisme à l'embauche est un racisme avéré lorsque on s'appelle Mohamed ou Malika. À quand un livre blanc sur le racisme que subissent tous les enfants de plein fouet dès que la couleur de leur peau est différente lorsqu'on est black ou beurre? Allez, Luc Ferry, un peu de courage et précise ta pensée en accusant la communauté maghrébine d'être responsable de tous les maux. Pour ma part, la femme algérienne que je suis et qui est devenue subitement arabe dans ce conflit du Proche-Orient est tout aussi sensible du sort fait aux Palestiniens comme à celui du Rwanda ou de la Côte d'Ivoire. C'était Sakina de Bordeaux. Merci.
Bonjour Claire, bonjour Daniel. Je tenais à remercier Claire pour les mots qu'elle a saisis auprès de Fatima et ses enfants. Les mots M-O-T-S et M-A-U-X. Je suis ce qu'on appelle une maghrébine, la trentaine, 10 ans vécu en Tunisie et 20 ans en France. Mes références sont plutôt Rousseau et Diderot, Caveroès et Cavicenne, bien que ces deux derniers, philosophes ou sociologues, ont bien influencé la pensée dite occidentale. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, je suis une étrangère, mariée à un Français dit de souche, et je viens d'apprendre qu'on m'accorde la nationalité française. Est-ce pour autant que je suis intégrée ? Non, je refuse le mot intégration. Je suis moi, tout simplement. Et comme tout un chacun, je suis faite de culture et d'histoire au pluriel. Mais si les mots être intégré signifie se sentir proche d'individus comme l'enfant Cavana dans son roman L'Irital, ou proche de Jules Supervielle quand il écrit Débarcadère, alors oui, ces mots me parlent. Les déracinés ne sont pas avant tout italiens, français ou tunisiens, ils sont simplement humains. Je serai intégrée, comme on dit, quand les autres m'accepteront tel que je suis, malgré ma couleur de peau et la consonance de mon nom. Alors merci à Claire, qui dans son reportage écoute et regarde de manière humaine. Naïma.
On vient tous du même pétrin. soit froment ou sarrasin. Herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part.
Colombi, Boudou et la âme est et Boudou, Bédé, Marais et Fawab. Oumouéti, Doudou, Sakaï.
Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins, Patent auf Menschen gibt es gar
nicht. Grain de sel, grain de sable, 2003 dans le répondeur de la page Si j'y suis, toute une année. Où vous avez osé répondre, où vous avez osé répliquer, où vous avez osé riposter, ne pas laisser faire, ne pas se laisser faire. Voilà ce que disent vos mots dans le répondeur de là-bas.
Daniel Mermet, bonjour. Je pense que vous êtes arrivé à un stade de rabâchage obsessionnel sur la position de l'Église catholique et la sexualité, masturbation incluse. Vous oubliez que 68 est passé et que les femmes n'ont pas eu besoin de vos discours abscons d'animateurs de la revue Goliath pour se défendre. Maintenant, quant à la femme, osez parler plutôt de l'islam en ce qui concerne la condition de la femme. Mais bien entendu, cela, vous n'avez pas le courage de le faire, car vous êtes un vieux sénile. Voilà, au revoir, je vous appelais de Grenoble.
Salut Mermet, c'est Fred. Ah, c'est, moi je trouve ça génial quand tu fais des émissions qui sur le cul, parce que le lendemain sur le répondeur on entend les peines à jouir se déchaîner. Alors y a rien de plus bandant que ça. Enfin bref, continue, parce que moi je trouve ça génial. Moi. Là je suis en train de me relire tout réserve et franchement ça fait du bien. Et voilà. Mais c'est bien que tu suscites la réaction. Franchement, c'est de mieux en mieux. Quel régal. Allez, ciao, c'était Fred de Breno.
Je suis totalement outrée par l'émission que je viens d'entendre tout à l'heure. Je me suis obligée à l'écouter jusqu'au bout par objectivité, bien que cette émission m'ait donné plutôt envie de vomir en tant que croyante, chrétienne et catholique, non cubénie et non pratiquante, je vous le précise. Hein ? Vous avez donné de l'Église catholique une image absolument épouvantable. Hein ? Vous avez voulu faire croire à vos auditeurs que tous les chrétiens étaient opprimés sur le plan sexuel par leurs prêtres et par le pape, ce qui est totalement faux. Hein ? J'espère que dans quelque temps, vous allez parler de l'esclavage dans lequel tient l'islam toutes les femmes, hein ? Au lieu de parler de tout ce que l'Église a fait dans le social, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est elle qui a commencé à s'occuper des pauvres, hein, vous êtes tout le temps en train de parler de ce que l'Église a fait de mal. Quant à votre fameuse libération sexuelle, on voit ce que ça donne, des enfants assassins, de la pédophilie à tous les coins de rue, malheureusement il y a des prêtres qui sont pédophiles, je le reconnais, hein, et ça me blesse suffisamment comme ça, hein. Alors n'appelez pas libération ce genre de choses, hein, non. Quant à ce que vous appelez la libération de l'individu en faisant l'apologie de pratiques qui sont de l'ignominie, parce que la sodomie, excusez-moi, j'estime que c'est de l'ignominie, je n'appelle pas ça se libérer. Un être humain qui se libère, c'est un être humain qui est capable de juger du bien et du mal, qui est capable de se donner à l'autre en tout respect de lui-même et de l'autre, et qui est capable d'aimer. Et ce que vous avez décrit comme amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est à l'amour ce que la merde est à un champ de fleurs. Voilà, tout simplement.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice, des bisques, des crevisses, des rillettes, de la sarte, quand la vue d'un striptease vous fait dire, quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduc, pour voir la vie en rose. Une bonne perle claque, oh, dans la gueule, un bon coup de sabbat, oh, dans les fesses, un mal.
mandibule.
Oh,
ça bouffait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques.
Oula,
dans la gueule. Et la reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
L'Irak
ready
devrait
for
être
us. Ready. Us, right
prêt
here.
À nous ici.
We're coming.
On arrive.
We're coming.
On arrive.
All right. We're gonna see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq.
Les États-Unis, c'est la superpuissance et l'Irak, c'est fait partie voilà. De la tiers monde. Quand ils vont frapper l'Irak, ils vont pas comprendre la paix ou pas de paix.
Hein. On parle en général, un Américain reste un Américain, il ne changera pas. Comme nous, Marseillais, Français, on ne changera pas. Voilà, on voilà. Est bien là, on ne veut pas de guerre, on ne veut rien, on est bien.
Fiers d'être Marseillais.
Bon courage.
Et on encule les Américains.
Cher Fatima, je te souhaite un bon anniversaire. Tu vas avoir 8 ans le 14 avril, le même jour que ma fille. Mais ce sera ton dernier anniversaire. Tes parents vont mourir en premier, sous les ruines de ta maison. Ton petit frère aussi. Ainsi, il arrêtera de sauter sur ton lit et de griffonner tes dessins. Toi, tu seras blessée et tu décéderas à l'hôpital de Bagdad. Je sais, tu voulais être chanteuse. C'est vrai que tu avais une jolie voix. Mais dis-toi bien que ta mort ne sera pas inutile. En effet, quand ton pays sera bien détruit, la démocratie apportera le bonheur aux générations suivantes. Un nouveau monde, une nouvelle vie, la paix, enfin. L'axe du mal fera définitivement partie du passé. Merci, Fatima, pour ton sacrifice. Roger, de Gironde.
Je viens d'avoir une idée pour arrêter la guerre. Il faut que le pape se présente, se porte volontaire comme bouclier humain en Irak. Cible impossible à atteindre, il se baladerait dans différents endroits, il désamorce les envies guerrières de Bush parce qu'il ne peut pas prendre le risque de tuer le pape, il sacrifie sa vie éventuellement, ses magnifiques martyrs pour un chrétien, il réconcilie les religions puisque les musulmans verront ça pour eux comme un signe plus que fort, la guerre s'arrête, est impossible et c'est quand même mieux de sacrifier sa vie à son âge que les petits jeunes qui y vont. Voilà, c'était mon idée, au revoir.
En fait, notre affarin, là, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Quel vénard. Il n'a pas besoin d'acheter un masque. Vive la France. Allez, bonsoir.
La guerre avance. Là-bas, si j'y suis, s'en va. On va à Volgograd, à Stalingrad, évoquer une guerre qui n'était pas mal non plus.
Bon, ben, bravo, Daniel. Toutes tes émissions, ça nous rappelle tout un tas de souvenirs à ceux de ma génération, à ceux qui vont bientôt rentrer au port. Alors, ça me rappelle un petit poème d'Aragon. Oh, pour ceux qui ont connu la guerre, qui ont essayé de faire quelque chose, on s'est peut-être trompé, mais enfin, voilà ce qu'il disait. On sourira de nous comme de faux prophètes qui prirent l'horizon pour une immense fête. Allez, salut.
Salut Daniel, c'est Thierry de la région Rhône-Alpes. On est à Gap, en train de défendre le service public de proximité. On est 150 agents EDF. Voilà, on tenait à dire qu'il faut absolument maintenir un service de proximité. Ils veulent une fois de plus délocaliser les emplois et faire en sorte que les emplois soient là où il y a le pognon. Et on n'est pas d'accord, on tenait à vous le dire. Allez, ciao Daniel et bon courage. Hein, salut.
Je suis une enseignante de lettres du lycée Maine de Biran à Bergerac, lycée de Dordogne, le plus gros lycée de Dordogne. Et nous sommes une académie pilote et ce qui se passe au niveau de l'école est une catastrophe. Nous sommes en grève illimitée depuis le 6 mars. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes en train d'assister au délabrement de notre école. Et nous résistons, mais c'est difficile. Je suis fille d'enseignant. Mes parents ont choisi ce métier par conviction. Je l'ai choisi moi-même. parce que c'était le seul métier que je voulais faire et je ne peux pas supporter de voir comment les élèves dans le public vont désormais être traités. Nous n'avons plus de moyens, nous n'avons plus de possibilités de les former correctement et d'éveiller en eux un minimum de sens civique et d'esprit critique. Et je voulais absolument que tout le monde le sache, il faut parler de l'école, c'est là que se construit la nation. Merci.
Bonjour, c'est Agnès à Paris. Ben, je vous appelle parce que j'ai été à la manif des femmes là samedi. C'était super, sympa, il y avait du monde, plein de jeunesse et tout, c'est ça fait plaisir. Mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de banderoles et d'autocollants et de machins, ni putes ni soumises là. Et bon, ben, tellement que c'est un peu curieux. Et en fin de manif, ben, il y avait quoi? Il y avait un grand camion Skyrock qui inondait tout Paris. Voilà, ben, je trouve ça scandaleux. Voilà, à plus, salut.
Oui, petit rappel historique. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés qui ont gagné la guerre veulent mettre en place des moyens pour éviter de recommencer le crash de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale qui est la suite prévisible de ce crash. C'est les accords de Bretton Woods, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est l'ONU. Depuis 1973, le libéralisme a vu dans ses appareils des moyens qui l'empêchaient de faire ce qu'il voulait faire et de gagner autant d'argent qu'il voulait en gagner. Donc c'est la fin des accords de Bretton Woods, c'est le détournement du FMI et de la Banque mondiale pour imposer un libéralisme effréné à tous les pays qui ne sont pas rentrés dedans, et en particulier les pays en voie de développement. Et là maintenant, on arrive à la phase ultime avec le gouvernement Bush qui veut faire exploser l'ONU en attaquant l'Irak sans son accord. Donc tous à la manifestation samedi prochain devant la mairie de votre ville pour empêcher cette dernière casse.
La politique que nous menons, c'est une politique d'allègement de charges et d'allègement d'impôts. Donc si je dis aux Français que je veux la baisse des charges et la baisse des impôts, c'est pas pour augmenter les cotisations. Donc nous demandons un effort partagé, mais il y a à côté de cet effort et en équilibre, il y a un certain nombre de vrais progrès.
On n'est qu'au mois de mars, là. On n'en est qu'au mois de mars. Chaque jour, 100, 200 messages. Parfois 300 arrivent sur le répondeur de la base si j'y suis. Ça passe par les oreilles de notre camarade Christophe Humbert. Et puis ensuite, nous faisons un tri tout à fait subjectif, que j'assume, de ces messages. Et là, pour ce best-of, pour ce florilège, eh bien, on a fait la même chose. Et ça donne ça.
Imaginons en mendiant. 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Pris en flagrant délit de racolage passif. 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Après avoir fredonné la Marseillaise de Gainsbourg, 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Avec 2 copains dans un hall d'immeuble. 2 mois de prison et 3 750 € d'amende. Et qui manquerait de respect aux policiers venus l'interpeller, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Pour peu qu'il ait été hébergé dans un campement illégal de gitans, 6 mois de prison et 3 750 € d'amende, notre homme cumulerait au total 3 ans et 10 mois d'emprisonnement et aurait à payer à l'État une note de 52 500 €. Heureusement, rien de tout ça n'arrivera, car nous avons voté en masse Chirac pour contrer les idées d'extrême droite de Le Pen. Chic alors!
Selon le Centre français du commerce extérieur, le marché mondial de l'emballage et du conditionnement est estimé à plus de 305 milliards d'euros. Les États-Unis sont les premiers consommateurs d'emballage avec 250 kg par habitant et par an, alors que la moyenne annuelle mondiale de cette même consommation est de 10 kg par habitant et par an. 15% de la population consomme près de 3/4 de la production mondiale d'emballage. Ben voilà. C'est pas demain l'été.
Hommage. C'est con pour Monsieur Lagardère. Mourir juste avant la guerre. Il va rater le feu d'artifice qui fait les gros bénéfices. De tout le pays, les esprits forts, un peu comme en Corée du Nord, nous ont chanté ses qualités, mais en oubliant d'indiquer, ce serait vulgaire, bien entendu, qu'il vendait de jolis obus. Heureusement, son fils est là pour faire comme son papa. Ainsi vont les marchands de canons, y a qu'à changer le prénom.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre sur France Inter au flash d'information que Jean-Luc Lagardère resterait un exemple pour les jeunes générations. Je dois dire que mon envie de procréer vient d'en prendre un sacré coup.
Je suis pété de rire, le mec qui a laissé le message avec Jean-Luc Lagardère, ça va être... Bon, comment c'est un exemple pour les jeunes générations, ça lui aurait passé l'envie de procréer. Moi, je m'imagine, c'est vrai, avec un petit Jean-Pierre Guillaillard dans les bras. Non, c'est pas possible non plus. Moi, mais... Salut.
Fox out front of a diplomatic bombshell for Saddam Hussein. You blew your final chance.
Salut, Mermé. C'est un enseignant de la région lyonnaise, là. J'entends mes gamins, je suis en train de les emmener faire du sport. Et ma radio est cassée dans la voiture, ce qui fait que j'ai pas pu la mettre ce matin. Mais c'est eux qui m'ont appris que la guerre avait commencé ce matin. Et je sais pas comment faire pour leur expliquer. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment faire pour expliquer qu'il y a la guerre. Que les Américains font la guerre. Voilà. Alors ils répètent n'importe quoi, ils disent ce qu'ils ont entendu à la radio, à la télé. Mais moi je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis désabusé. Je suis impuissant face à ça. Comment expliquer à des gamins que c'est la guerre? Les raisons? Est-ce qu'il y a des raisons rationnelles? Je sais pas. Voilà. Un enseignant impuissant.
Un message de Benjamin Fabre de Virieux dans l'Isère. N'oubliez pas de lire vendredi prochain l'éditorial de Jean-Marie Colombani. Il s'intitulera « Nous sommes tous des Irakiens ».
Une déclaration de Madeleine Albright qui était interviewée par une journaliste de CBS. Cette journaliste lui disait « Nous avons appris qu'un demi-million d'enfants sont morts à cause des sanctions contre l'Irak, c'est-à-dire plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Est-ce le prix à payer ?» Madeleine Albright, hein, c'était en mai 96, répond « C'est une décision très difficile, mais oui, je pense que c'est le prix à payer. » Alors, voilà, comment peut-on croire une minute que les Américains sont là pour une histoire de droit, pour une histoire de démocratie à restaurer en Irak, hein? Il n'y a que quelques cinéastes un peu aigris de l'issue de 68 en France pour croire une telle connerie.
Je voulais dire que c'est une aubaine, cette guerre, pour Chirac tout de même, parce qu'il est enfin en phase avec son opinion publique. Et on va oublier pendant quelque temps que le gouvernement actuel a supprimé la couverture sociale universelle qui donne les soins gratuits aux plus démunis. Et ça, c'est vraiment une aubaine avec tout ce qui se passe dans la politique intérieure française. Merci, la guerre.
Il y a la nature qui est tout en sueur. Dans les hectares, il y a du bonheur. Il y a des villas qu'on mène plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps.
Joyeux printemps à tous.
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey Bush.
Voilà ce qu'on pouvait entendre dans une manif à New York il y a quelques mois. C'était au mois de mars dernier, mais on trouvait des échos à cela dans le répondeur de la basse si j'y suis.
Hey Bush, what did you say? How many kids did you kill today? C'est un message de son papa avec Nina qui a 4 ans. Salut à toute l'équipe de Daniel, à bientôt.
Qu'est-ce qu'un normopathe? C'est un individu obsédé par le normal. Un individu soumis et obéissant qui confond la norme avec la loi. Qui confond la toute-puissance du père et du groupe avec la loi démocratique. Et qui, pour mieux se persuader qu'il est normal, passe son temps à vouloir normaliser le monde. Ce ne sont pas les psychopathes qui produisent les dictateurs. Ce sont les normopathes. César, Napoléon, Hitler, Staline, George W., Saddam Hussein, tous ces personnages sont des normopathes qui haïssent toute altérité. car l'altérité perturbe la norme. Les dictateurs ne sont pas des sauvages primitifs. Ce sont toujours des gens ultra-civilisés et souffrant de normopathie.
Il pleut sur Bordeaux, là, ce soir. Et c'est très joli, parce que en cette saison, j'aime bien. Il y a un bus qui passe, là. Je suis Cour d'Albret, je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux. En face du musée des Beaux-Arts. La petite place qui a des arbres, là, je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Des marronniers ou des tilleuls, quelque chose comme ça. Voilà. Et la cabine est en face de la rue Montbazon. Vous voyez, c'est la rue Montbazon, c'est celle qui est entre le musée des Beaux-Arts et le Connemara Irish Pub. Je vois, c'est écrit. Alors, je vous appelle parce que, à cause du temps qu'il fait ce soir, parce que c'est l'anniversaire à Baudelaire ce soir. Enfin, aujourd'hui. Il a 182 ans, Baudelaire, il fait vieux. Et alors, l'atmosphère qui règne là avec la pluie, vous savez ce que j'aime au printemps, c'est que quand il pleut, c'est une petite pluie, j'ai même pas ouvert le parapluie. Les arbres sont... Le vert des feuillages ressort énormément, quoi. Et ça fait penser exactement à... Le plus beau poème de Baudelaire, c'est, d'après moi, c'est pas un poème, c'est ce qu'il appelle une fusée. Et qui dit « Les ténèbres vertes dans l'histoire humide de la belle saison ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire avoir condensé une atmosphère comme ça, juste dans une phrase, quoi. Les ténèbres vertes dans l'histoire humide de la belle saison.
Aujourd'hui, 12e jour de la guerre en Irak, que les familles des 60 victimes du marché bombardées par les missiles américains, que les familles des enfants qui ont perdu un bras, qui ont défiguré, toutes les familles éprouvées irakiennes sachent que leur souffrance et leur courage n'est rien à côté de ce qu'il a fallu à une poignée d'intellectuels français pour prendre le parti de la guerre et du bellicisme contre celui de la paix et du bon sens. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de passer une journée simplement d'analyse réfléchie et sensée sur les événements très graves qui se passent en ce moment pour l'humanité, sans qu'on nous inflige les diatribes diarrhéiques de vieilles badernes 68-ardes, expertes en captation médiatique à tout propos et à tout sujet, au profit de leur vieil égo flétri, jamais remis du deuil de leur jeunesse défunte et du lyrisme des idéaux bêta qui la berçaient. Dans une sale guerre aux ramifications pourries, une complexité effrayante, je me bats les couilles au dernier point de savoir que André Romain Goupil-Glucksmann est trop con pour se laisser effleurer par le moindre doute. Merci d'avance de vous passer d'eux, même pour meubler.
Not in our name, the pledge to resist. Will you invade countries, bomb civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless? Not in our names will you erode the very freedoms you have claimed to fight for. Not by our hands will we supply weapons and funding for the annihilation of families on foreign soil. Not by our mouths will we let fear silence us. Not by our hearts will we allow whole peoples or countries to be deemed evil. Not by our will and not in our name. We pledge resistance. We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom, and peace. Another world is possible, and we pledge to make it real.
Fire and forget.
De l'espoir dans ces mots, not in our name, mais aussi beaucoup d'espoir dans le fait qu'un auditeur puisse prendre tout ce temps pour nous dire que les ténèbres vertes sont dans les soirs humides de la belle saison. Merci à tous, merci à Christophe Imbert, aux techniques aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne, Alain Armstam, musique Koyen Guyen, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, il est 18h sur France Inter. On se retrouve demain, deuxième partie de ces répondeurs de 2003. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon, salut.